les discussions reprennent à Bruxelles. Débutées hier, ces négociations entre les 27 autour du plan de relance de 750 milliards d'euros destinés à faire repartir l'économie de l'Union européenne, eh bien, n'ont rien donné. Les pays dits frugaux, parfois qualifiés aussi de radins, Pays-Bas et Autriche en tête, ne veulent pas d'un système de subvention, ce qui bloque pour l'instant tout accord. Bonjour Pascal Joannin.
Bonjour.
Directrice générale de la Fondation Robert Schuman, Centre de recherche et d'études sur l'Europe. La vraie surprise finalement, cela aurait été d'avoir un accord dès hier soir. La situation était très prévisible.
Oui, parce que les négociations budgétaires, c'est toujours très compliqué. Chaque État arrive avec un peu sa calculatrice et puis regardant ce qu'il va pouvoir avoir comme juste retour de ce budget européen. Et alors cette année en plus, au-delà du budget européen de 7 ans, de 1000 milliards d'euros, il y a le plan de relance, le fameux plan de relance qui est lié à la crise sanitaire et ses effets économiques et sociaux. Et donc là, en effet, il y a un magot plus important. Et donc chacun regarde un petit peu ce qu'il va pouvoir percevoir. Alors comment ce plan de relance est pour les régions qui sont les plus affectées? Il y a des pays qui estiment qu'en effet, bon, ça va être bénéficiaire à certains et pas à d'autres. Et ils regardent un petit peu, en effet, où va se situer la balance pour essayer d'obtenir et de grappiller quelques deniers.
Il faut rappeler, hein, Pascal Joannin, qu'il y a plusieurs blocs qui s'affrontent. La France, l'Allemagne notamment d'un côté, et puis ces pays qualifiés de frugaux de l'autre.
Alors la France et l'Allemagne, c'est un point positif, la France et l'Allemagne sont sur la même longueur d'onde. Il faut rappeler que tout le plan de relance européen est issu, découle de l'initiative franco-allemande du 18 mai entre la chancelière allemande et le président français, qui est liée à un revirement de la position allemande. D'habitude, l'Allemagne est plutôt dans les pays dits frugaux. Là, elle a compris que l'intérêt européen était de faire ce plan de relance parce qu'il y a urgence, parce que c'est une crise inédite et parce que d'autres pays ont fait ces plans de relance, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres, et que si on ne le fait pas, ça sera préjudiciable à l'Europe. Et donc les pays frugaux, c'est très bien qu'ils mettent des conditions, qu'ils aient de voir ce qu'ils pourront profiter un peu, etc. Il ne faut pas qu'ils perdent de vue que s'ils font capoter la négociation, la faute leur en incombera et ça sera une faute qui leur sera préjudiciable. Alors je vois bien que M. Rutte est plus préoccupé par son avenir politique.
Le Premier ministre néerlandais.
Dans peu de temps. Le Premier ministre néerlandais, mais il devrait être préoccupé plutôt par l'intérêt général européen et par l'avenir de l'Union européenne. Donc il faut voir en effet si aujourd'hui les négociations vont pouvoir reprendre et en effet faire entendre raison à ceux qui poussent le bouchon un peu loin à mon avis.
On peut imaginer que les Pays-Bas, justement, l'Autriche aussi changent de position, puisque vous l'avez dit, on a vu l'Allemagne se convertir à la solidarité européenne alors qu'elle y était très opposée en début de crise.
Oui, c'est tout à fait possible. Alors, ça se joue, vous savez, c'est comme dans toutes les négociations, le diable se niche dans les détails. Donc, il faut discuter. Il y a une nouvelle proposition qui a été proposée par Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, compte tenu, en effet, des blocages d'hier. Il faut faire attention que, puisque l'unanimité est la règle en matière budgétaire, donc il faut en effet que la France et l'Allemagne et les autres, les frugaux, et puis les pays qui touchaient jusqu'à présent beaucoup du budget européen, les pays qui nous rejoignent à l'Union européenne et qui avaient en effet des fonds européens comme la Hongrie, la Pologne et d'autres, parce qu'en effet ils étaient sur des régions défavorisées en transition, et donc ils veulent aussi que ce budget-là soit préservé. Il y a aussi les nouvelles priorités de la Commission, l'environnement, le numérique, le rattrapage un petit peu de tout ça pour que l'Europe puisse continuer à peser. Et donc, il faut l'inscrire dans le budget. Et puis, il y a en effet cette crise financière, cette crise sanitaire qui a touché des régions qui ne sont pas les plus pauvres de l'Italie. C'est la Lombardie, c'est la Vénétie. Elles n'ont jamais eu un fonds européen parce qu'elles ne sont pas les plus riches. Chez nous, ça a été l'Île-de-France En Espagne, c'est la Catalogne qui est une des régions les plus riches. Donc, c'est ça aussi la nouveauté, c'est que ces régions qui ont été touchées par le virus vont pouvoir avoir des fonds européens auxquels elles n'avaient pas droit jusqu'à présent.
Pascal Joannin, vous évoquiez les propositions de Charles Michel, le président du Conseil européen. Est-ce que ces nouvelles propositions pourraient, à votre avis, faire basculer les choses ?
Écoutez, il est attendu au tournant, Charles Michel. C'est son premier grand sommet physique, puisque c'est important aussi de le dire, c'est une réunion physique. Il y a eu beaucoup de réunions virtuelles depuis le mois de février, mars. Donc là, en effet, c'est une réunion physique, donc c'est important. Il est attendu au tournant parce qu'il a été nommé le 1er décembre, et donc c'est son premier grand... Donc il est attendu au tournant. On va voir s'il a la capacité de trouver le compromis nécessaire. En Belgique, il l'a trouvé. Est-ce qu'il le saura le trouver au niveau de l'Union européenne? Et puis, il y a une personne qui est quand même clé dans cette négociation, c'est la chancelière allemande, puisque l'Allemagne a pris le 1er juillet ce qu'on appelle la présidence semestrielle du Conseil, et elle a un poids peut-être politique plus fort, parce qu'elle est là depuis longtemps, parce qu'elle connaît bien la machine, et parce qu'elle a aussi changé un peu de camp, et donc elle peut persuader peut-être certains des pays récalcitrants à dire tout l'intérêt qu'il y a à trouver un accord, parce qu'on se souvient qu'il y a 10 ans, quand il y avait eu le problème grec, ça avait duré et ça avait coûté très cher à l'Europe, et que là, on n'a pas le temps de tergiverser, notamment vis-à-vis de l'opinion publique, qui ne comprendrait pas que les chefs d'État se réunissent et ne prennent pas leurs responsabilités en trouvant une décision, celle qui sera la meilleure pour tout le monde, mais une décision, et s'il n'y a pas de décision, ça serait une faute politique de la part des dirigeants.
Ces blocages, justement, Pascal Choinin, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'Europe et surtout de son avenir? Est-ce qu'on peut dire que l'UE, aujourd'hui, joue sa survie?
Alors, elle, c'est un moment important. Jouer sa survie, on l'a déjà dit il y a 10 ans, au moment de la crise financière. C'était la fin de l'euro. Il y en a même qui n'avaient pas écrit des livres sur 10 ans la fin de l'euro. Il est toujours là. La Banque centrale, Mario Draghi et Christine Lagarde ont pris des positions qui soutiennent l'euro. Mais c'est un moment important, notamment parce qu'on voit bien que l'équilibre mondial... Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est partie des 3 principaux acteurs internationaux avec la Chine et les États-Unis. La Chine est dans une position qui est particulière, les États-Unis aussi, et les États-Unis nous ont fait comprendre, depuis Donald Trump mais Barack Obama déjà, qu'ils seraient moins proches de nous qu'ils ne l'étaient par le passé. Donc on a en effet des positions à prendre pour défendre nos intérêts dans une compétition internationale qui est importante. On a tous été, la crise a été internationale, mais il faut que l'Europe prenne les mesures qui s'imposent pour qu'elle puisse rebondir. Elle a la capacité de le faire, mais c'est aujourd'hui ou demain au plus tard que ça se décide.
Et c'est les Pays-Bas qui vont jouer un rôle central vraiment dans ces négociations. On a l'impression un petit peu que les Pays-Bas jouent au Royaume-Uni, si l'on peut dire.
Alors voilà, on a beaucoup fait cette image que c'était le Royaume-Uni était toujours celui qui était le mauvais élève, qui bloquait et qui était le moins disant. Je crois qu'en effet, il y a beaucoup de considérations politiques dans les propositions de Marc Rutte qui ne sont pas complètement infondées. Et c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut en effet vérifier que l'argent qui est distribué dans ce plan de relance est bien destiné à des projets d'avenir, qu'il n'est pas détourné à d'autres fins. Et donc, c'est un peu normal qu'il y ait un droit de regard, parce que ça serait un droit de veto, mais qu'on sache un petit peu comment c'est utilisé. Il ne faudrait pas que ça bloque la situation, parce qu'on se tirerait une balle dans le pied vis-à-vis de d'autres partenaires qui continueraient d'avancer, alors que nous, on repartirait sur des négociations.
Et on verra si ces négociations se débloquent aujourd'hui.
Voilà, il y a des urgences, parce que dans certains pays, on attend de l'argent très vite, et il faudrait qu'on ait en effet une décision rapidement pour que les premiers fonds puissent être débloqués avant la fin de l'année.
Merci beaucoup Pascal Choinin d'avoir été avec nous, directrice générale de la Fondation Robert Schuman.